Merci beaucoup, Daniel. Je vous invite à prendre dans Nombre 14. Nombre 14. Je suis toujours dans la version seconde 1910. Premier verset. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes pas morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. » Et ils le diront au peuple de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il a juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et vous partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Jusqu'ici, cette première longue lecture, mais qui prend tout un contexte, et juste une deuxième lecture, qui est quand même un peu plus courte, dans Galates, chapitre 1er. Nous verrons les 7 premiers versets. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je continue. Je m'étonne que que vous vous détourniez si promptement de celui qui a été appelé par grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Jusqu'ici, ces deux lectures, je vous invite à la prière. L'Éternel, nous voulons vraiment nous mettre devant toi, devant ce texte, devant ces récits qui nous sont parvenus. Seigneur, te demandons qu'on te nous donne ton message et qu'il soit profitable à notre âme, Seigneur, que nous puissions voir comme toi tu vois, au nom de Jésus. Amen. Lors de la préparation, une pensée tournait dans ma tête, être libre. Et pendant plusieurs jours, libre est revenu dans ma tête. Qu'est-ce que ça voulait dire, être libre? Et pendant cette période de réflexion, j'ai reçu un mail qui pour une publicité d'un numéro spécial d'un magazine, et le titre était « Pourquoi lire Nietzsche aujourd'hui ?» La réponse, « Pour apprendre à être libre ». Bon, ben voilà, il fallait que je parle de la liberté, en plus de ce que Daniel avait déjà avancé. Donc, pour info, Nietzsche, c'est un philosophe allemand de la fin du XIXe siècle. Alors, entre la pensée de la liberté, le passage de Galates que je méditais, et l'exemple de Caleb dans le livre des Nombres, quel rapport y avait-il? Et c'est en relisant plusieurs fois les textes qu'est apparu un petit mot, juste un petit adjectif, autre. Autre. Ça change tout. Hein. Autre, tout simplement. Donc j'ai donc intitulé notre partage Une autre liberté, un autre évangile, un autre esprit. Tout simplement en trois termes. Donc une autre liberté, qu'est-ce qu'être libre? Suis-je vraiment libre de faire ce que je veux? Je puis quelques exemples, parce que j'aime bien. Suis-je libre de crier? Ouais, dans un stade de foot, ouais, dans le désert, dans les bois, ouais, pas de problème. Mais dans le métro, ou le train bondé, ou en pleine messe d'enterrement, ou encore au téléphone avec le président des États-Unis, non, ça se fait pas quand même. On peut pas crier. Il y a un minimum de décence à respecter. On ne crie pas. Suivant où on est. Suis-je libre de payer ou ne pas payer mes impôts? Essayez, vous verrez. Suis-je libre d'être complètement nu? Bien sûr. Ça dépend où. Si c'est dans ma douche, pas de souci. Si c'est un camp naturiste, chacun son truc. Hein. Mais ailleurs, c'est là quand même une atteinte aux bonnes mœurs. Dernier exemple, suis-je libre d'éructer? Autrement dit, de faire sortir bruyamment les gaz de mon estomac. Autrement dit, de rôter, quoi. Mais bon. Est-ce que ça se dit, des choses comme ça? Non. Ça ne se fait pas. Sauf si vous êtes en Thaïlande ou là, c'est obligatoire. Parce que vous avez bien mangé, il faut éructer. Donc, la liberté est donc tout à fait relative. Si je prends la liberté de rouler à droite alors que je suis en Angleterre, je vais avoir un sérieux problème. Donc, qu'est-ce qu'être libre? De quoi suis-je donc libre? On nous parle souvent de liberté, hein, liberté de choix, libre pensée, libre arbitre, libre service, libre d'être qui je veux être. C'est nouveau aussi. Hein. Alors, pour les frères Bogdanov, qui sont aujourd'hui décédés, il y avait une théorie, ils ont fait une théorie sur le monde où tout était mathématique. Et ils ont écrit un livre qui s'intitule Le code secret de l'univers. Et il y aurait, dans tout cela, un code de liberté. Donc, on serait tout mathématique et on aurait la liberté mathématique. Tout serait calculé. Liberté. On pense aussi à nos voisins, les Français, nos amis français. Liberté, égalité, fraternité. Libre partout. On parle de liberté. Souvenez-vous aussi d'Olivier Van de Castel qui fut libéré en échange d'une autre personne. Libéré. Entre autres aussi pour l'église protestante, chaque église locale est libre de choisir son pasteur, sa théologie, son fonctionnement. Mais sommes-nous libres de tout? Dans Jean 8, 36, Jésus dit aux pharisiens qui se disaient n'être esclaves de personne, ces pharisiens qui se croyaient libres, Jésus leur dit, si le Fils vous affranchit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Libre de quoi? Et le verset 34 nous dit, en vérité, Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Est-ce qu'on est libre ou pas? Nous voilà libres face au péché. Cette autre liberté dépend de notre enchaînement au mal. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin que de nous arracher, de nous libérer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père. En quelque sorte, nous avons été échangés avec le Fils de Dieu. Pour notre liberté, il a pris notre place. Un échange pour être libre. J'ai été condamné et Jésus est mort à ma place. C'est sûrement ce qu'a dû penser Barabbas, qui était là. Il a été échangé. C'est lui qui devait mourir à la place de Jésus. Il était sujet à un accord de transfert. Tout ça par amour. Par amour. Dieu a aimé. Jésus s'est donné lui-même pour nous arracher à l'actuel monde mauvais. Ah, l'actuel monde mauvais. Jésus est venu pour nous délivrer de ce monde avec ses pseudo-libertés, ses échanges au prix d'argent, ses libérations au nom d'un Dieu qui agrée les martyrs. Ce monde qui, au nom de la liberté d'expression, critique sans arrêt. Ce monde libre de tout dogme. Jésus nous offre une autre liberté. Autre liberté, celle de la vérité, ou pas celle de la dissimulation, pas celle de transactions douteuses, ou encore celle des mathématiques, de l'univers. Non. Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31, 32. Il y a donc une autre liberté. Et c'est ce que Paul parle au début de l'Épître aux Galates. Et il développera toute cette liberté dans toute cette épître aux Galates. La liberté en Christ par la foi. La liberté face à l'esclavage du péché. Mais d'emblée, au verset suivant, verset 6 et 7 de Galates, Paul prend un autre ton. Autre, vous voyez, ça revient régulièrement. Autre ton. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Je m'étonne pour les surpris. Il vient de leur dire, voilà, vous êtes graciés, vous êtes libres. Et hop, il s'étonne que vous vous détourniez si promptement. D'autres versions disent si rapidement. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement pour un autre évangile. Un autre évangile. Au deuxième point, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent, qui vous troublent. Dans d'autres versions, c'est des gens qui veulent déformer l'évangile de Christ. L'évangile est là, on veut le déformer, on veut le dire autre chose. Paul est clair, il n'y a pas d'autre évangile. L'évangile, ça vient de evangelion, qui signifie « bonne nouvelle » en grec. Et on parlera d'autres évangiles, évidemment. Dans un premier temps, on parle de l'évangile de Marc, de Jean, mais toujours en rapport avec la vie de Jésus. Donc, tout ce qui se trouve dans cette référence de Evangelion est, évidemment, évangile de Jésus-Christ. Marc 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, Marc 1, 14, par exemple. Après que Jean eut livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Évangile de Christ, évangile de Dieu, tout ça. Paul parlera aussi de l'évangile de paix, de l'évangile du salut. Tous ces évangiles, entre guillemets, parlent de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul évangile, la bonne nouvelle de Christ, qui est venue selon la prophétie d'Ésaïe, que je vous cite, en Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, annoncer un évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé. » Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Une autre liberté. Bon, d'autres évangiles ont été écrits. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'évangile de l'enfant, de l'évangile de Thomas, ou encore de l'évangile de Judas. Et selon le livre d'Ambrose, Da Vinci Code, il y aurait plus de 80 évangiles à côté de ceux qu'on connaît. Mais de quel autre évangile parle Paul. Quel est cet autre évangile? Le verset 7 est clair. C'est bien de l'évangile de Christ qu'il est question, mais que certains aiment déformer pour semer le trouble. Les Galates ont bien accepté la bonne nouvelle, mais ils se sont laissés avoir par une autre interprétation. Donc c'est le même évangile, mais interprété différemment ou déformé. Mais l'évangile avec un grand E n'est pas déformable. Elle n'est pas adaptable. Elle n'est pas autre. Tout comme Christ, elle est unique. L'évangile de Christ est unique. Alors les fauteurs de troubles d'évangile de l'époque mettaient en doute le ministère de Paul et prêchaient qu'il fallait faire aussi les œuvres de la loi et pour être sauvé. Combien encore aujourd'hui, on prêche, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut aussi, il faut... pour être sauvé, non. Être libre, Jésus-Christ uniquement. Alors aujourd'hui, on pourrait être troublé. Être troublé par les nouvelles théologies qu'on annonce un évangile en totale liberté. Évangile de liberté, vous l'avez déjà vu. Vous êtes libre de penser. On doit chercher Dieu en nous. Il est là, il est en nous. Il faut le trouver. Liberté d'interprétation des textes bibliques. La Bible est la parole de Dieu ou la Bible contient les paroles de Dieu. Liberté de religion. Oh, peu importe comment on nomme Dieu, tant qu'on y croit ou tant qu'on a la foi. Liberté d'identité. Peu importe de quel sexe on est dans notre corps, tant que dans la pensée, on est ce que l'on croit. Liberté de pouvoir. On parle de notre Église en oubliant d'abord qu'elle est l'Église de Christ. Parfois, on se bat pour l'Église. Mais c'est l'Église de Christ d'abord. Enfin, liberté d'alliance. Le mariage n'est plus nécessaire aujourd'hui, hein, bon temps qu'on s'aime. C'est bon. Liberté. Liberté d'ouverture. Peu importe qui tu es, en qui tu crois, tant que ton diplôme de scientifique du texte est valable, tu peux accéder à l'enseignement et à la théologie. Dans ton diplôme, il n'y a pas de souci. Tu peux. Et au nom de la liberté, parfois nous sommes troublés. Troublés par un autre évangile que celui de Jésus-Christ, qui pourtant veut nous donner une liberté réelle. On voudrait faire croire que nos pères, remplis de foi, ont été trompés, qu'ils n'ont rien compris. Ou alors qu'ils étaient vraiment stupides, parce qu'à l'époque, oh non, il faut tout changer, il faut évoluer, ce mot-là. Les érudits sont-ils vraiment dans le royaume de Dieu, ou bien n'y aura-t-il que ceux qui ont accepté d'être libres, comme des enfants, d'avoir accepté Jésus-Christ, tout simplement, comme des enfants. En réalité, il n'y a pas d'autre évangile, il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle de Christ. Et c'est en relisant ce verset que je veux arriver à mon troisième point, ce dernier. Un autre esprit. Un autre esprit. Dans notre récit, on voit que le peuple d'Israël est aux portes de Canaan. Le pays promis, il est là, il est en vue. Et après 2 ans dans le désert, ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte. Ils vont prendre possession en toute liberté de ce pays où coule le lait et le miel. Ils vont pouvoir se reposer, jouir de tout, parce que Dieu leur a donné ce pays. C'est le pays de la promesse. C'est dans la poche, tout est à nous, nous sommes libres en Dieu. Mais quel est ce tumulte dans la nuit? Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous pas morts en Égypte ou dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? Le peuple est troublé. Le peuple s'est laissé troubler. Dieu a fait envoyer des espions et ils sont revenus avec un rapport assez bouleversant. Ils étaient 12. 10 sont revenus avec un rapport bouleversant, apparemment. Mais il y a quand même d'autres choses. Ils sont revenus avec une grosse grappe de raisins énorme. Ils ont dû porter à deux. Il y a des bonnes choses en Israël. Le revers de la médaille, c'est que selon certains espions aussi, là, il y a des géants. Des géants qui vont tuer, qui vont massacrer. Ils sont plus grands que nous. Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux, et à leurs yeux comme des sauterelles. Ils se sont laissés troubler. Dieu a donné le pays. Ils se sont laissés troubler. Alors je me suis dit, à leur place, qu'aurions-nous pensé de cette description ? C'est une petite sauterelle. Aurions-nous osé nous aventurer dans ce territoire rempli d'embûches et d'ennemis ? On y va à la catastrophe, nettement plus fort et plus nombreux que nous. Les Israélites se sont laissés troubler, perturbés, secoués par les personnes qui décrivaient un autre pays. Un autre pays, qu'est-ce qu'ils espéraient obtenir ? Un peu comme les Galates qui se sont laissés décrire un autre évangile qui ne correspondait pas à la réalité. Pourtant, au travers de ce récit, il s'est élevé une autre voix, celle de Moïse qui disait le contraire, et celle de Josué et Caleb qui disaient le contraire. Quant à Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, deux de ceux qui avaient exploré le pays, profondément bouleversés, déchirèrent leurs vêtements et dirent à la communauté, « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui ruisselle le lait et le miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur. N'ayez pas peur, les habitants, nous n'en ferons qu'une bouchée. » Un autre message, une autre vue du pays. Et le verset suivant nous décrit que c'est au péril de leur vie qu'ils ont fait cette déclaration. Il a fallu l'intervention de Dieu lui-même pour qu'ils ne soient pas lapidés. Qui aurions-nous écouté, nous, si on avait été là ? Les espions qui disent « Mieux vaut retourner en esclavage, vivant, ou mourir dans le désert ?» Ou se lancer dans ce combat déjà gagné d'avance, parce que Dieu a donné le pays, Dieu a fait, il a promis. Caleb était animé d'un autre esprit, nous dit Nombre 14, 24. Un autre esprit. Et pour le peuple, il est déjà trop tard. Dieu a rendu son jugement jusqu'à quand ce peuple le méprisera-t-il ? Je le frapperai par la peste. Mais en un instant, à ce moment-là, une autre voix se lève, c'est celle de Moïse, qui commence un plaidoyer pour le pardon. Non, fais pas ça, c'est Dieu, pardonne-leur. Et il insiste, pardonne-leur. Pourtant, Moïse aurait pu avoir la grosse tête, il laissait Dieu détruire le peuple complètement, partir, fini, et il devenait le nouveau patriarche. Puis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Moïse qui était là, lui. Quel gâchis. Quel gâchis pour avoir écouté une autre voix que celle de Dieu. Non, Moïse n'intervient pas en faveur du peuple. Il ne dira pas assez, non. Moïse va avoir un discours en faveur de la gloire de Dieu. Souviens-toi, les Égyptiens vont apprendre que tu as détruit le peuple parce que tu es incapable de mener dans le pays que tu avais juré à leur père de leur donner. Tu n'as pas été capable, alors tu les as tués dans le désert. Il va prendre Dieu au mot maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité, la rébellion, il ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple. » Oui, l'Éternel a pardonné, mais il a puni les incrédules et les a fait retourner le peuple dans le désert pendant 38 années. Le temps nécessaire pour passer à une autre génération. Que de temps perdu pour des entêtés qui n'ont pas su entendre l'autre discours animé d'un autre esprit. Le récit nous rapporte que seuls Josué et Caleb entreront dans le pays. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme application, je vais terminer par là, de ce texte aujourd'hui, tout comme le peuple d'Israël, ça nous a été rappelé dans l'introduction. Le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage de l'Égypte par la puissante main de Dieu. Nous aussi, nous avons été délivrés de l'emprise du péché par son immense amour. Tout comme les Israélites, nous avons traversé des déserts. Des déserts durs peut-être où Dieu a voulu nous conduire pour nous apprendre à reconnaître en lui sa gloire. Oh oui, c'est peut-être pas fini encore. Notre conversion nous a menés au bord du Jourdain où il nous a fallu traverser pour prendre possession du pays par la foi. Or, nous avons douté, certainement peut-être aussi, réagi contre Dieu. Pourquoi m'as-tu amené dans ce lieu, dans cette galère? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette épreuve? En oubliant parfois tous les bienfaits que Dieu avait faits. Or, nous n'avons pas oublié que nos ennemis non plus n'avaient plus de protection et que Dieu est avec nous. Enfin, avons-nous entendu cette autre voix qui nous encourageait à regarder à Dieu plutôt qu'aux hommes? Alors, en conclusion, une autre liberté, un autre évangile, un autre esprit. Qu'est-ce qui nous motive ou qui nous trouble? Paul posera plusieurs questions aux Galates, et je vous en livre juste deux. Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Verset 5. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Nous avons une fraction de réponse. Dans le chapitre 3, verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a quelqu'un d'autre qui nous influence. Quelqu'un d'autre qui nous trouble. Quelqu'un d'autre. Nous nous sommes laissés avoir par un autre Dieu qui nous a appelés des ténèbres. Un autre que Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ayons-nous cet autre esprit qui animait Caleb, afin de ne pas nous laisser troubler par ceux qui veulent nous annoncer un autre évangile que celui que Jésus-Christ crucifié, qui lui seul peut donner une autre liberté face au péché. Allons-nous nous laisser arrêter par ce qui nous entoure, par ce qu'on voit, par ce qu'on lit dans le journal? Allons-nous élever une autre voix, comme Caleb ou comme Moïse, une voix qui vient de Dieu, qui pardonne, qui dit non, il y a autre chose. L'enjeu de taille, il s'agit de la gloire de Dieu et de l'évangile de Jésus-Christ. Oh, que le Saint-Esprit nous aide et nous anime d'un esprit de sagesse, d'amour et de paix, afin de progresser et au fait du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as libérés. Mais tu nous as libérés pour proclamer ton évangile, le seul évangile qui donne la liberté. Oh, donne-nous cet autre esprit, un autre esprit qui est le tien. Et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.